L'idée des parcs, c'est des espaces contrôlés. Un exemple, ce serait les parcs de skateboard. Mon chum Ron avait écrit un article là-dessus, justement, comme quoi avant les jeunes se promenaient partout en planche à rouler. Puis, à une place, les autorités ont décidé de faire des parcs pour contrôler les jeunes, mettre des caméras. Puis là, on sait ce qu'on fait, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se tiennent. Fait que le char de flic, il vient une fois tous les heures, il check, puis il continue, tu sais. Mais définitivement, le concept des parcs, c'est le concept du contrôle de l'espace, du territoire. Quand on parle de parcs naturels, ce qui m'a fait développer une critique de ça, depuis le début des années 90, j'avais une critique de ça, parce que les environnementalistes au BC se battaient pour sauver les forêts. Puis le gouvernement NDP, en compromis, a fait beaucoup de parcs dans les montagnes. Souvent, c'était des parcs où est-ce qu'il y avait juste de la roche puis de la glace, là, parce que les forêts étaient exclues pour que les compagnies continuent à les exploiter. Mais ils ont quand même protégé une couple de forêts. Mais principalement, c'est une nouvelle relation que les gens ont avec la nature, puis c'est une relation étatique de contrôle du territoire, dans le sens que personnellement, je comprends pas comment on peut protéger la nature en la mettant en cage derrière une clôture. Puis je comprends la logique que si on laisse tout puis on n'essaye pas de protéger légalement certaines parties du territoire, ben tout va y aller, tu sais. Fait que les environnementalistes ont développé une pratique de développer des parcs pour protéger la nature, mais la nature n'a pas de frontières. Dans le sens même, certains environnementalistes commencent à s'apercevoir que ils parlent de corridors de vie sauvage entre les parcs, parce qu'ils ont réalisé que quand tu formes un parc, puis autour du parc, ben, tu fais des coupes à blanc, puis des mines, puis des autoroutes, tout ça, la biodiversité tranquillement diminue dans les parcs parce qu'il n'y a plus de connexion extérieure. Puis le fait que maintenant, ils commencent à parler à des corridors pour connecter les parcs ensemble pour que les ours puissent marcher d'un parc à l'autre, mais même cette idée-là fait pas de sens parce que un parc, c'est principalement une idée de désigner des fonctions sur une carte, sur une map. C'est une idée abstraite qui ne tient pas compte des choses vivantes, des organismes vivants qui ne vont pas respecter ces frontières-là mises sur une map. J'ai écrit une critique des parcs parce que sur l'île que je vis, sur Denman, il y a un développeur qui a acheté 2-3 000 acres de terre, puis il avait le droit de construire sur 22 lots. Mais il a fait une négociation avec la communauté qu'en échange de créer des parcs, il triplerait sa densité, puis il y aurait 65 lots. Et au début, il voulait 85, mais après des années de négociations, il s'est retrouvé qu'il a fait un deal avec la communauté, où est-ce que je vis, de créer des parcs, de prendre un morceau de la terre qu'il voulait développer, puis faire un parc avec, un parc provincial. Maintenant, le gouvernement a pris le contrôle de cette partie de l'île. En échange, ben c'est ça, en échange de tripler ses lots pour faire plus d'argent, il a réussi à prendre des morceaux de terre de la couronne, des parties de son terrain et faire des parcs avec. Puis ça, c'est vraiment acheter les gens. Ils étaient là, ah, OK, on va te donner ton 65 lots, mais maintenant on a des parcs, où est-ce qu'on peut aller marcher? Là, je pensais à ça, puis j'étais comme vraiment pas content. T'sais. C'était comme, hey, vous vous laissez avoir parce que ce gars-là, c'est un crise de manipulateur. Il utilise un langage écologique de small is beautiful, puis plein d'affaires. T'sais, tout de suite, il a compris ce que les gens étaient dedans. La communauté, le local et la nature, tout ça. Fait qu'il a vraiment manipulé ben, le capitalisme vert. Là, il a vraiment utilisé ça. On a plusieurs amis qu'on s'est dit, bon, on devrait écrire là-dessus, puis commencer à critiquer publiquement ce qu'il fait. Fait que j'avais écrit un article sur les parcs. Ça m'a fait penser à la relation qu'on a avec la nature. D'un parc, premièrement, c'est une chose étatique, une chose de contrôle du territoire. Puis, ça prend pas en compte comment la nature vit, comment les organismes vivants bougent, puis sont autonomes, puis font leur affaire, puis que ce soit l'eau ou les ratons laveurs ou les choses comme ça. C'est complètement idiot de penser qu'on peut faire un petit musée ou une petite place protégée, puis le reste est ouvert au développement industriel, à l'urbanisation et tout ça. Puis en plus de ça, les parcs, il y a des couvre-feux à 11 h du soir, il n'y a personne qui a le droit d'aller là-dedans. Tu n'as aucun droit de cueillir des champignons, de couper un arbre, de récolter des choses. C'est sûr, tu peux manger une coupe de baies sauvages, mais définitivement, il n'y a pas de récolte de plantes parce que c'est supposé d'être protégé. C'est de penser que les humains, nécessairement, ils vont détruire la nature si on se laisse accéder à la nature. T'sais. C'est complètement idiot. Fait que, il y a certains Indiens qui ont eu des critiques des parcs pour différentes raisons. Premièrement, penser protéger la nature, puis empêcher les humains d'utiliser les ressources de la nature. Puis là, le problème, c'est les humains. On est une espèce de cancer. Sa planète, il faut nous restreindre d'interagir avec la nature. Puis là, la nature est libre, elle pousse tout seul. Mais comme je disais, ça marche pas de même. Il n'y a pas de frontières dans la nature. Là, il y a le vent, le pollen se promène, les abeilles, les ours, ils n'ont pas de frontières dans le territoire. Puis ils se multiplient, puis ça grossit la population. Fait qu'il faut qu'ils aillent ailleurs. Puis c'est basé sur une vue misanthrope de l'humanité. Puis ça ne tient pas en compte qu'on est des animaux. On fait partie de la nature. Puis c'est sûr que les gens civilisés qui sont détachés de la nature, qu'on achète notre bouffe puis nos vêtements, tout ça, on n'a aucune connexion directe de où est-ce que notre bouffe elle vient. Où est-ce que... Fait que c'est sûr que dans un système capitaliste industriel, juste se nourrir, se vêtir, détruire la nature. Mais ça ne veut pas dire que les parcs, c'est la solution. C'est définitivement pas une solution. Un autre aspect des parcs, surtout au BC, où est-ce que les terres sont non cédées, il n'y a pas de traité, ils n'ont jamais été donnés ou vendus aux colonisateurs. Les parcs, c'est un moyen de coloniser. C'est un moyen légal de soutirer le titre à la terre aux Indiens, où est-ce qu'il n'y a pas eu de traité. Un exemple, c'est sur les Queen Charlotte. C'est sûr qu'il y a des deals maintenant qui sont faits que les Indiens ont le droit d'aller récolter certaines choses ou même de chasser dans certains parcs. Après, il y a bien des négociations, mais ils n'ont pas le droit de couper un arbre. Ils n'ont pas le droit. C'est juste certaines activités culturelles ou traditionnelles qui ont le droit. Le reste était exclu. Puis ça, c'est juste les Indiens, mais nous, en tant que Canadiens ou whatever, citoyens, on n'a aucun droit d'utiliser les ressources des parcs. C'est quand même drôle parce que j'ai écrit une critique des parcs par rapport à où est-ce que je vis avec le développeur, comme je disais. Mais à Chutika, où est-ce qu'on construit des cabines, en 1999, juste un peu avant l'établissement du camp de Chutika contre la station de ski, le gouvernement, par la porte arrière, avec certains chefs de bande vendus, ils ont désigné Duffy Lake, qui est à peu près à 5-10 km du camp, comme un parc provincial. Puis là, en 2007... il y a eu un autre deal derrière des portes fermées avec des chefs de bande qui faisaient partie durant les Olympiques en 2010. Avant ça, il y avait une espèce de propagande et de stratégie du gouvernement de créer des « legacy », ils appellent ça en anglais. C'est ce que tu laisses aux futures générations. T'sais. Puis ils ont en partie des Paralympics pour les gens handicapés. Et ils ont étendu l'aire du parc de Duffy Lake jusqu'au camp. Maintenant, le camp de Chutika est dans un parc provincial depuis 2007. Puis ça a été caché. On a juste su ça l'automne passé. C'était un chum anarchiste, un anthropologue anarchiste, un jeune de l'Italie qui est venu étudier la résistance des Stadlium aux Olympiques. Puis il est venu passer 3-4 mois au BC. Puis il a passé 2 mois dans au camp, puis sa réserve. Puis il a fait ses études, puis il a pris des notes, tout ça. Puis il était sur l'Internet. Il étudiait toutes les affaires qui se sont passées sur le territoire. Puis il a découvert ça pour nous que Chutika, maintenant, était dans un parc provincial. Ça a été fait complètement dans le dos de tout le monde. Puis tout ça. Fait que dans un sens, je suis fier qu'on construit dans un parc. C'est drôle parce que j'écrivais l'article, j'ai écrit ça en 2009 ou 2010, je m'en souviens plus. Je parlais justement qu'on va réoccuper les gens de la terre puis les gens en support, les settlers qui supportent les Autochtones. On va se retrouver à dépasser ces frontières-là puis à utiliser les ressources dans les parcs puis à construire parce que on a besoin d'autonomie. Ça veut dire qu'on a besoin d'accès aux ressources. Puis les parcs, ça nous empêche d'avoir accès à nos ressources, à nos besoins, de ce qu'on a besoin, que ce soit la chasse, la pêche ou les arbres ou les baies ou certaines choses qui se retrouvent dans ces parcs-là. Fait que définitivement, c'est une relation malsaine avec la nature. C'est une relation étatique, c'est une relation autoritaire, c'est une relation technocratique qui est basée sur la science, les biologistes et tout, qui, eux, ont leur théorie de comment ça marche. Puis, c'est vraiment pas soutenable, c'est évident. C'est comme mon ami Doug, il disait, les environnementalistes, les Blancs, tu sais, ils parlent de la nature, ils parlent de la wilderness, la nature sauvage. Puis lui, il dit, moi, on n'appelle pas ça la nature, la wilderness, on appelle ça la maison, on est chez nous, c'est notre maison, tu sais. Puis ils ne se voient pas séparés. Puis l'idée des parcs, ça nous sépare encore plus notre relation avec nos besoins, puis avec les ressources, puis avec nos relations en général. Parce que c'est une question de pas seulement voir la nature comme des ressources pour les besoins humains, mais c'est nos relations, que ce soit les animaux ou l'eau qu'on boit. C'est les relations qu'on a besoin pour vivre. Fait que Je suis vraiment critique des parcs de la nature, puis je veux voir justement, comme tu disais, avec le plan Nord, des chips pour faire des négociations avec les environnementalistes, ça va être la création de parcs. Ils vont dire, ah ben on va détruire cette partie-là, mais on va sauver cette partie-là. Puis justement, cet après-midi, on regardait des annonces pour le plan Nord, puis ils parlaient des parcs, puis ils montraient des orignaux, puis regardez, on va protéger la nature pour vous, mais en échange, on va tout détruire. Tout est connecté dans la nature. Fait que tu fais un parc ici, mais tu mines là, ben l'eau va polluer, puis nanana, puis le climat va changer. Puis, fait que c'est une question, c'est vraiment une approche complètement tordue, je trouve, d'essayer de sauver la planète. Puis en même temps, ça nous exclut d'une relation saine avec la nature. Fait qu'il y a plusieurs aspects à ça au parc, ouais. Parce que si les gens d'une communauté décident, hey, il y a une zone qu'on veut pas toucher, là, c'est là que notre eau potable vient, puis on coupe pas d'arbres là, puis on laisse tout tranquille, ben ça ferait du sens. Mais quand c'est le gouvernement qui arrive, puis les biologistes, les scientifiques, qui arrivent, puis qui nous disent que c'est pour notre bien, puis c'est bien pour le bien de la nature, ben moi, ça me fait pas de sens. On devrait choisir ces choses-là nous-mêmes. Où est-ce qu'on veut laisser les choses tranquilles? Où est-ce qu'on veut les utiliser? Puis en même temps, c'est aussi une question que dans le monde moderne qu'on vit, ben souvent c'est exagéré l'utilisation. On arrive, on va pas prendre 3 arbres, on va tout prendre les arbres. On va pas prendre juste un peu d'eau, on va dériver, on va dévier la rivière, puis on va faire un barrage hydroélectrique, on va prendre toute l'eau potable, on va mettre ça en bouteille, puis on va la vendre, puis c'est encore une histoire marchande. Puis c'est principalement une question de quelle relation est-ce qu'on veut avec nos besoins, avec nos relations naturel, on l'a vu. Le langage est difficile à expliquer, mais c'est parce qu'en anglais, on dit relations. Ben, les Indiens, ils parlent de relations, que toutes les formes de vie sont nos relations. Puis ça fait vraiment du sens, tu sais, pour moi. Puis l'idée d'encager ça, de mettre une clôture autour, puis de dire, OK, vous rentrez pas là après 11 h du soir, vous faites pas de feu, vous pouvez pas camper, vous pouvez pas récolter quoi que ce soit, c'est comme complètement imbécile. Ça n'a rien à voir avec une relation avec la nature. Fait que, ouais, je suis très critique des parcs, puis je pense que cette critique devrait se répandre pour que les gens comprennent que c'est pas ça qu'on a besoin pour sauver la nature. Sauver la nature, premièrement, il faut se sauver nous-mêmes, là, arrêter d'être esclaves. Parce qu'un aspect, souvent les gens disent, ah, les humains, ils détruisent la nature, c'est notre nature humaine de faire ça, t'sais. Puis on est comme des locustes ou quelque chose. Puis premièrement, les locustes, la population s'effondre éventuellement, puis ça donne bien de la bouffe à tout le monde. Deuxièmement, c'est de réaliser qu'on est des esclaves, puis un esclave décide pas de son activité. Il se le fait dire quoi faire, sinon il y a le fouet qui sort, ça soit le fouet de la pauvreté ou littéral. Puis la planète se fait détruire parce que les humains n'ont pas le contrôle de leur activité. Fait que si on se débarrasse du travail salarié, du capitalisme, ben, peut-être qu'on va avoir une relation saine avec la nature. On va arrêter de tout couper et tout détruire.
En tout cas, ça va être une base.
Ouais, ça va être une base,
Parce que
anyway.
les humains peuvent trouver d'autres façons de détruire la
Ouais,
nature au-delà du capitalisme. Mais...
Il y a eu beaucoup d'erreurs, j'imagine. Je me disais que peut-être pourquoi beaucoup de cultures autochtones ont une relation de respect avec la nature, de balance. C'est peut-être qu'ils ont fait des erreurs dans le passé et puis ils l'ont réalisé, tu sais. Puis ils ont peut-être détruit une population d'ours ou d'orignal ou quelque chose, puis ils ont dit, hey, oh, hey, on peut pas faire ça, tu sais. On fait des erreurs, puis on apprend, puis on repense comment faire les choses pour que ça arrive pas encore, parce qu'on veut en laisser pour les futures générations, tu sais. Évidemment, tu sais, on peut faire des erreurs ou en prendre trop des fois, ou la population augmente trop, puis blablabla, mais c'est une question de balance, puis de trouver cette balance dans nos vies, dans nos relations, hein. Quel autre aspect? Je pourrais parler des parcs. Ben, c'est ça, il y a l'aspect qu'on n'est pas des parasites sur la planète. On est des animaux, puis quand on est libre, mais on pourrait vraiment figurer pour nous-mêmes, décider pour nous-mêmes notre relation avec nos besoins. Puis, right now, il y a une médiation entre la production de nos besoins puis la consommation, t'sais. Mais si on coupe cette médiation marchande, puis on va directement, ben, peut-être on va pouvoir avoir une meilleure idée des conséquences de nos actes et de ce qu'on fait. Ouais, tout est le même, que ce soit l'agriculture ou que ce soit la chasse ou les arbres qu'on utilise pour construire nos maisons, quelque chose. Quand tu l'achètes au magasin, le bois, ben, tu ne sais pas d'où il vient, tu vois pas les conséquences de cette planche de bois, mais quand tu le coupes toi-même, tu vois la conséquence. Hein, tu coupes toute la forêt, ben, peut-être l'eau va sécher, puis il n'y en aura plus d'eau, puis le sol va aller dans la rivière, puis aller dans l'océan. Puis définitivement, c'est une question d'avoir une relation directe avec la nature pour moi. Puis les parcs, ça nous exclut de cette relation. Comme je dis, il y a peut-être certaines occasions. Est-ce qu'un parc, c'est une bonne idée? Mais encore une fois, c'est pas décidé par nous, c'est décidé par l'État. C'est sous pression, des fois, environnementale, mais c'est malsain. Hein. C'est l'idée du capitalisme vert là, qui essaie de nous convaincre qu'il y a toujours une solution dans le marché et dans l'État. Puis ça, c'est vraiment, je suis pas d'accord. La solution est dans nous et dans nos relations librement choisies. Hein. Parce qu'il y a plusieurs aspects des parcs. J'essaie de penser à l'article que j'ai écrit parce que j'ai essayé de penser à vraiment plusieurs aspects. Définitivement, il faut arrêter de penser à la nature comme quelque chose que c'est dehors de nous. Même le mot environnement, c'est quelque chose extérieur à nous. Tu sais, ça n'applique pas vraiment à la réalité. On est toujours connecté à cet environnement. On n'est jamais déconnecté. Puis, c'est ça la pensée écologique. C'est de faire les liens, de voir les conséquences de ce qu'on fait. Hein. Ben, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le vol des terres autochtones avec les parcs, que les environnementalistes participent. Puis il y a aussi l'idée que tu fais un parc, mais tout autour du parc, c'est correct de faire quoi que ce soit, les activités industrielles. Puis il y a plusieurs exemples au BC. Là. Mais il y a aussi une histoire comme le plus gros parc au BC, le premier gros parc qui a été créé, c'est Strathcona Park sur l'île de Vancouver. C'était créé pour les gens qui font de la récréation en nature. Là. C'est l'idée britannique romantique, du mouvement romantique de la nature. Ça vient aussi de la monarchie, vraiment, qui avait des énormes parcs pour la chasse, que le roi est chassé et tout ça, comme à Londres. Maintenant, le plus gros parc, c'est une préserve de chasse pour la royauté. Puis maintenant, c'est rendu un trip urbain, tu sais, que tout le monde aime bien la ceinture verte autour de Londres et tout ça, mais... Je comprends la logique, comme je disais. Il y a des environnementalistes qui disent « Ah, c'est peut-être pas parfait, mais au moins on sauve ça pour les futures générations quand les choses vont vraiment changer. Au moins, il va rester cette forêt-là. Au moins, il va rester cette rivière-là. » Mais comme je dis, tout est connecté. Fait que tu fais une ligne ici, tu dis « On coupe pas ça, on touche pas ça. » Mais l'autre bord, en haut de la rivière, ben, c'est coupé puis c'est pollué. Fait que ça passe dans le parc. Puis c'est aussi les animaux, les plantes qui vivent là-dedans. Tu peux pas les contenir. C'est toujours en train de bouger puis il y a un échange. Il y a un flot qui se fait entre différentes régions, différentes places. Puis avec la gravité, les vents et tout. Puis les animaux, ils ont quatre pattes, ils marchent puis... Tu peux pas aller leur dire « Hey, dépasse pas la ligne du parc, reste dans le parc. » C'est quand même pas le même, ça marche. Hein. Puis comme je disais, ben, c'est prouvé maintenant scientifiquement. On a vu que la biodiversité s'effondre. Alors, j'ai un exemple. Je lisais un livre qui s'appelle « The Desert Smells Like Rain ». Le désert sent comme la pluie, sent la pluie. Il y a un exemple là-dedans où est-ce qu'il y a une espèce d'oasis dans le désert. C'est un livre sur les papagos, les Oudam. Actuellement, il y a un groupe, un Black Bloc, dans le sud des États-Unis qui s'appelle DOA. DOA, puis c'est Dene Oudam Anarchist. Puis c'est un Black Bloc autochtone et anarchiste qui se sont mis ensemble. Ça, je pense que ça a commencé dans les démonstrations contre Columbus, hein, dans le sud, dans le Colorado, quelque chose. Puis le peuple Oudam vit dans le désert et a une relation très spéciale avec le désert. Ils font une agriculture du désert. Aucune irrigation, c'est juste avec les pluies, ils ont des danses, des rituels de la pluie avec une certaine alcool qu'ils font avec des cactus. Puis c'est vraiment intéressant comme livre, il parle de ça. Puis il y a une place, il parle d'un oasis où est-ce qu'il y avait un vieux autochtone qui vivait là-dedans, puis il y avait une coupe de poules, puis un jardin, puis l'oasis, il y a une source qui sort de la terre, fait qu'il y a beaucoup de végétation autour, puis tout autour c'est le désert très sec. Le gouvernement a une place dans les années 50 ou 60. Il a décidé de faire un parc national avec cette oasis. C'est tellement spécial. Il y a des oiseaux, puis il y a beaucoup de plantes, puis tout ça. Puis ils ont crissé dehors les gens qui vivaient là, qui avaient des petites maisons, puis des jardins, tout ça. Ils ont évincé, ils ont crissé dehors parce qu'ils disaient que, hey, on va transformer ça en parc. Parc national ou de l'État de... C'est où ça? C'est juste sur la frontière du Mexique. C'est peut-être le Nouveau-Mexique ou quelque chose. Puis une fois qu'ils ont chassé les humains du parc, après 20 ans à peu près, ils ont réalisé que tranquillement le parc mourait, que les oiseaux partaient, puis tout ça. Puis c'est parce qu'avoir des humains là, les gens qui restaient là faisaient sûr que la source ne se faisait pas boucher par des roches, par de la boue, tout ça. Ils étaient toujours en train de la réparer pour que l'eau continue à sortir. Puis ils amenaient des plantes, ils propageaient les graines des plantes de la place. puis ils fertilisaient le sol en jardinant avec leurs animaux, puis tout ça. Puis les humains avaient une relation symbiotique avec cette oasis, puis aidaient actuellement. Puis plus que les humains jardinaient puis plantaient des affaires, plus qu'il y avait d'oiseaux très spéciaux, des oiseaux migratoires, des oiseaux qui sont là l'année longue. Puis là, à une place, les biologistes se sont aperçus que le parc est en train de mourir parce que les humains sont partis. Puis, ben, le parc, l'oasis, ouais. Fait que ça, c'est un exemple que des fois, on a besoin, la nature a besoin des êtres humains pour être là, pour la biodiversité, puis juste une interaction saine. Il n'y a aucun problème d'interagir avec la nature. Là. C'est juste la façon qu'on le fait, puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant de lire ça, comme ça reconfirmait ma critique des parcs. Un autre exemple, c'est comme, les humains, on les chasse parce qu'ils détruisent la nature, puis c'est comme, on est capable de faire ça d'une différente façon. C'est un vaste sujet, puis en même temps, c'est très simple, c'est comme, on est la nature, on n'est pas des extraterrestres. Là. Ça fait 2 millions d'années qu'on vit ici, puis c'est pour ça qu'aller vivre sur Mars ou quelque chose, ça va jamais marcher, parce que biologiquement, culturellement, physiologiquement, tout ça... On est la planète. On est l'air qu'on respire, qui rentre dans mes poumons, qui forme mes cellules. C'est comme on est tous connectés, tu sais. Puis c'est ridicule de se séparer de ça, puis de penser qu'on peut vivre dans des bulles de plastique avec des machines qui font notre air puis notre eau propre. Là. Ça, c'est l'extrême. Mais l'idée des parcs, c'est quasiment ça fit avec la colonisation de Mars puis de la Lune, tu sais. Puis c'est comme... C'est complètement imbécile. Hein. Parler des parcs, ça me parle le matin, comme ils disent, quand ça... La mère en crise. C'est parce que c'est vraiment... C'est misanthrope, hein. C'est vraiment comme, on est tellement méchants, les humains. C'est ça, notre nature. On détruit la nature, whatever. Puis c'est la bullshit. T'sais, les humains civilisés, aliénés, les travailleurs salariés, les esclaves qui détruisent la nature, c'est pas des humains libres. Comme tu dis, c'est sûr qu'on peut faire des erreurs, puis il y a bien des façons. Mais regarde, disons l'Amazon... Les gens qui arrivent pour faire pousser, faire de l'agriculture, qui détruisent la forêt, ben pourquoi? C'est des gens dépossédés, c'est des gens déplacés, c'est des gens qui n'ont pas une tradition longue de vivre dans cette région-là, d'être en balance, on le veut. Fait que même quand c'est pas du développement capitaliste, puis les gens détruisent la nature, c'est une conséquence du capitalisme et des déplacements de population et tout ça, de la colonisation. Fait que, on pourrait en parler pendant des heures. Ben, j'essaie de couvrir différents points. Là. Puis, ce serait bien que les gens commencent à être critiques de ça. Puis, ça ne veut pas dire d'enlever les parcs présents là, qui protègent certaines zones, mais pourquoi on prend pas l'idée, le concept, puis tout est un parc. Dans le sens qu'on respecte la nature, mais on la détruit pas, c'est tout. C'est ça l'idée d'un parc. Mais quand le premier parc de nature nationale a été créé, c'était Yosemite. Puis, ça a été créé par le président Lincoln en 1864. Drette là l'idée d'un parc public, naturel, c'est l'idée d'un président. J'ai un ami qui a écrit un article là-dessus, justement, sur le parc de Yosemite. Puis le parc a été créé, qui était déjà, c'était territoire indien. Les Blancs n'étaient même pas arrivés là, ils étaient encore dans l'Est. Puis tranquillement, ça bougeait vers les Black Hills. Et ça bougeait tranquillement avec Custer, là, il s'avançait avec l'armée. Puis il faisait les chemins pour aller en Californie, tu sais, les chemins de chariot. Mais le parc a été créé, puis dès le début, les mineurs d'or sont arrivés, puis ont commencé à exterminer les populations indigènes de cette place-là. Puis ont commencé à miner dans le parc de Yosemite. C'est toute la bullshit. C'est comme, il y a des parcs au BC que, c'est un parc, mais pourquoi il y a une mine au milieu? Pourquoi il y a de la coupe à blanc de l'autre bord? Puis... La désignation légale d'un parc ne veut pas nécessairement dire que ça ne sera pas touché par le développement industriel. Ça, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples à regarder à travers le Canada. Fait que ça, c'est une autre chose. Quand les environnementalistes qui pensent que c'est sauvé pour l'éternité, c'est pas vrai du tout, du tout. Fait que entre la dépossession des Indiens à travers voler leurs terres à travers les parcs, jusqu'à nous exclure d'une relation saine à nos besoins à travers les parcs, de dire non, vous y touchez pas. Puis il y a une police qui va venir t'arrêter si tu touches, là, puis c'est la grosse amende. L'idée de se séparer de la nature, ben il y a beaucoup de problèmes avec les parcs. Hein. De dire qu'on est étranger, puis que nos besoins sont contraires à une nature saine. T'sais. C'est pas vrai du tout, du tout. On peut très bien avoir une relation saine et balancée avec la nature. En interagissant, puis encore là, même là, justement, en interagissant, on peut peut-être, comme ils disent, être des stewards. on peut en prendre soin, puis là, c'est pas une question d'améliorer. La nature n'a pas besoin d'amélioration, mais on peut, comme l'exemple de l'oasis sur le territoire aux dames, c'est comme, des fois, certaines choses ont besoin d'une interaction humaine pour la biodiversité, puis certaines choses. Fait que c'est complexe, mais c'est pas compliqué. C'est juste, il faut arrêter de se crisser dehors de nos propres besoins, qui est nos relations avec la nature, que ce soit l'eau, la bouffe, ou juste pouvoir apprécier les autres animaux. Comme on disait plus tôt, ils nous font rire des fois. Mieux que de regarder la TV. Fait que, ouais, c'est une question d'arrêter d'être spectateur. Là, on n'est pas obligé d'être spectateur de la nature. On peut être participant, whatever. Je pense que c'est pas mal tout. Ce que j'ai à dire, c'est les parcs. J'espère que j'ai été clair. Mais c'est une question à explorer entre amis. Puis j'espère que certains écolos vont commencer à y penser que c'est pas la solution.